Alors d'abord, je voudrais dire que pour moi, la question foncière est une question relativement nouvelle. J'y pense depuis quelque temps, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dessus. J'ai travaillé sur les territoires, mais pas sur le foncier spécifiquement. Et en fait, ça m'intéresse. Enfin, je vais revenir là-dessus. Et donc, je remercie de l'occasion qui m'est fournie par les organisateurs de cette rencontre, de m'avoir obligé à y consacrer un peu de temps et de réflexion et de m'avoir fait avancer. Et j'espère que voilà, j'arriverai quand même si, enfin, je ne sais pas si je vais aller assez loin, mais en tout cas, de commencer à travailler sur ces questions-là. Donc, je vais faire ça. Je suis historien, hein, donc je vais d'abord essayer de vous décrire le processus historique d'appropriation foncière coloniale, et pour essayer de terminer sur des pratiques et d'appropriation de la construction par les habitants, et donc l'autre signification de l'appropriation. J'ai passé de l'appropriation comme possession à de l'appropriation comme concession, comme construction, un peu. Enfin, c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Donc, alors oui, je ne vous situe pas Djibouti, j'aurais peut-être pu vous montrer où c'était quand même. Là voilà, on le voit sur cette carte-là. C'est donc ici, au sud de la mer Rouge. Donc, c'est le 11 mars 1862, par un traité signé à Paris. Qui a été signé donc à la suite de l'assassinat dans le golfe de Tadjoura, hein, le golfe qui est au milieu de l'actuel Djibouti. D'un ancien consul honoraire français à Aden, que la France fait venir un certain nombre de personnes qualifiées de chefs à Paris, les emmène dans un bateau, enfin, il y a un bateau militaire qui vient, on les emmène à Paris, et la France, à la fin des négociations, dont on ne sait pas grand-chose, hein, ça n'a jamais été étudié, je ne sais pas où sont les archives de cette négociation, achète un territoire à ses responsables locaux pour 10 000 thalers. C'est le territoire qui est en bleu, en haut à droite, sur ce terrain-là. En fait, il y a un territoire qui est bien précisé dans le texte. Ce territoire est bien précisé dans le texte, mais il y a un additif dont le statut n'est pas très clair, qui précise que si ce territoire ne convenait pas, par exemple, les Français pourraient s'installer ailleurs, dans un autre qui les arrangerait plus, sans avoir besoin de repayer. Alors, il faut bien voir que ce texte a certainement des significations très différentes. D'abord, du point de vue français, il s'agit clairement d'aller manifester la sanction et d'aller manifester son autorité après l'assassinat de son consul honoraire. Ça, c'est sûr. Il s'agit probablement, enfin, pour les Français, il s'agit clairement d'un achat d'un territoire souverain réalisé dans le cadre du droit international de l'époque, et la légitimité des vendeurs à vendre cette souveraineté n'est absolument pas questionnée dans le texte. On peut quand même s'interroger sur la signification de ce texte-là pour les signataires indigènes, autochtones, comment dirais-je, africains. En tout cas, pour eux, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une somme. La somme est versée. 10 000 thalers, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable, un thaler de Marie-Thérèse. C'est une somme importante. C'est un revenu exceptionnel qui survient dans un contexte où c'est le faible qui paye au fort. Hein? C'est le faible qui paye tribut pour l'utilisation du territoire, jamais le fort qui paye pour avoir le droit de l'acheter. On n'est pas du tout dans cette représentation-là. Donc, celui qui. Enfin, il est. Comment est-ce que les personnes qui ont touché cet argent-là ont compris cette acquisition et restent en discussion. En tout cas, c'est qu'en 1884 que les Français s'installent concrètement à Obock, au nord du Golfe, sur le territoire acheté, et signent très rapidement de nouveaux traités qui agrandissent le territoire colonial, donc c'est les trois territoires en rose, avec la conclusion donc de trois protectorats, qui sont compris comme des protectorats pour les Français, distincts du premier espace qui, pour les Français, est un territoire en pleine souveraineté. En 1896, après le transfert de la capitale du territoire à Djibouti, au sud du Golfe, le décret qui crée la colonie, la côte française des Somalis, distingue encore clairement ces deux catégories de territoires entre les territoires coloniaux et les territoires sous protectorat, ces côtes françaises des Somalis et protectorats. Vers 1890 sont délimités les points frontaliers littoraux par des négociations qui se font avec des puissances européennes, l'Italie au nord en Érythrée, les Britanniques au sud avec le Somaliland. Mais cependant, en pratique, seule la ville de Djibouti et ses environs, la ville d'Obock, et pratiquement pas les environs, uniquement. Il est maintenu un poste militaire à Obock, mais c'est tout. Très peu de choses. Et l'emprise du chemin de fer vers Addis Abeba, construit à partir de 1887, font l'objet d'une occupation réelle par des Européens. On pourrait constater éventuellement une spoliation foncière. Les quelques concessions délivrées dans l'intérieur du territoire, il y en a eu un certain nombre, n'ont jamais été suivies d'une occupation effective. Si à Obock, il y avait effectivement quelques habitants, il y avait, on va dire, un petit village, lors de l'installation française, le site de Djibouti ne faisait l'objet d'aucun habitat à l'époque. C'était simplement un lieu de passage pour des nomades, pour des transhumants, pour des bergers, des pasteurs transhumants, qui utilisaient en particulier l'eau de l'Oued qui passe à côté. En 1880, avant l'installation française, le gouvernement français avait refusé d'octroyer des concessions autour de Obock, considérant que toute occupation essentiellement précaire et révocable devra cesser à la première réquisition. Mais après l'installation, en 1884, un arrêté y organise un système de concessions payantes ou gratuites des terrains au bon vouloir de l'administration. Sur la rive sud du Golfe, alors que les premières maisons sur le plateau de Djibouti sont construites en 1888, dès 1892, l'administration commence à accorder des concessions trentenaires de terrains sur le plateau de Djibouti. Donc ça, c'est le site de Djibouti au moment de l'installation française, à peu près. Ainsi que dans la plaine alluviale voisine, donc la plaine alluviale qui est au sud du plateau, à partir de 1898-1899. Ces concessions sont d'abord gratuites, puis onéreuses à partir de 1910. Elles ne deviennent en théorie définitives que lorsque les bâtiments qui étaient prévus lors de la concession sont construits. En théorie, ils doivent être construits dans les 6 mois. Enfin, je vous passe. Et en fait, ils mettent souvent des années à être construits. Les concessions sont renouvelées, etc. Moi, je me suis intéressé à ça. J'essaye de comprendre comment Djibouti a fait ville. Et donc, je suis en train d'essayer d'entreprendre un recensement de toutes ces concessions, etc. Mais enfin, bon, voilà. Parce que, entre autres, j'ai pas réussi à trouver les archives foncières de Djibouti. Donc, elles sont peut-être à Djibouti, mais voilà. Donc, les concessions ont également été accordées, donc, après 1890, pour des projets d'exploitation agricole ou minière dans l'intérieur, mais aucun n'a abouti avant un début d'exploitation industrielle du sel du lac Assal. Le lac Assal, c'est ici, en 1998, un siècle plus tard. Et sur ce site-là, se pratique depuis, je ne sais pas quand, mais enfin depuis un temps très lointain, parce qu'il semble bien, enfin bon, les sources sont compliquées parce que les noms des lieux changent, mais il semble bien que déjà au XVIe siècle, on trouve des traces de sel du lac Assal qui remonterait vers les plateaux abyssins. Donc on a un lieu d'exploitation du sel très ancien qui depuis le XXIe siècle fait l'objet d'une exploitation industrielle, mais il y a eu des concessions sous l'époque française, mais ils n'ont jamais été mis en œuvre. D'ailleurs, c'est un peu marginal par rapport à ça, mais quand même, il faut noter qu'en 1890, lorsque les Français attribuent la première concession sur le lac Assal, l'Éthiopie proteste officiellement, le Ménélique, le gouvernement de Ménélique, estimant que le lac dépend de ses territoires à lui. Et d'autant plus que l'Éthiopie est dans une phase d'expansion à cette époque-là et qu'elle occupe Harar, qui se situe encore un peu au sud, à 300 km de Djibouti, en 1887. Et elle finira même, il y aura même une concession qui sera accordée par l'empereur éthiopien, enfin le Négus, à un Français en 1891. Donc, hors la ville, donc, seule la construction du chemin de fer mobilise concrètement un terrain concédé par le gouvernement de la colonie. Cette réalisation, la construction du chemin de fer est confrontée à une violente résistance, y compris armée. Cette résistance à la construction est due à deux événements. Le premier est bien évidemment dû au fait que les territoires, le chemin de fer va apporter une concurrence à ce qui est une des principales utilisations du territoire, qui est la circulation caravanière et les taxes que ça, enfin les taxes, les prélèvements qui sont opérés sur les caravanes. mais aussi dû aux prélations exercées par le chantier de construction du chemin de fer, qui n'hésite pas à attaquer les campements pour faire des saisies de bétail pour nourrir les ouvriers. La construction du chemin de fer entraîne la création de la ville d'Addis Abeba au sud en 1899, c'est ici. À partir d'un poste militaire qui est installé pour assurer la protection de la ligne. Mais aucun texte ne formalise le système de concession foncière à Addis Abeba. Ça sera la même chose en 1927 lors de la création de la ville de Dikhil un peu plus à l'ouest. Et l'occupation de la ville de Tadjoura, qui elle est une ville urbanisée depuis peut-être le XVIe siècle, n'entraîne pas non plus de législation spécifique pour l'installation et la concession de terrain. Il faut quand même dire qu'il n'y a pas d'Européens qui s'installent dans ces villes-là, à part l'administrateur. Enfin, l'administrateur, quelques soldats, quelques militaires éventuellement, mais il n'y a pas du tout de présence d'Européens dans l'intérieur. En 1910, lorsque les concessions deviennent payantes, une procédure est engagée devant le tribunal de Djibouti. Je ne connais pas le détail de cette procédure. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui a contesté la capacité de l'administration à faire payer les concessions. Néanmoins, cette action judiciaire pose la question, je cite, de savoir si le traité passé avec les chefs Issa le 26 mai 1885 attribuait à la France une propriété sans réserve du sol ou un simple protectorat, et si le texte de l'article 2 conférait le droit à l'administration locale d'allotir le territoire et de l'aliéner à titre onéreux ou gratuit sans l'adhésion spéciale des chefs indigènes. Ça se pose la question donc de savoir de quel droit l'administration peut bien faire des concessions sur un territoire qui ne lui appartient pas. On revient aux questions que posait Fabio tout à l'heure sur à qui appartient le terrain. L'administration semble conclure que non. Et donc en 1917, l'inspecteur général Fillon, qui était devenu gouverneur par intérim parce que le gouverneur était mort pendant son passage, enfin c'est pas grave, décide en août 1917 de sécuriser juridiquement l'allotissement de la ville de Djibouti en faisant signer un nouveau traité à des représentants Issa. Donc il y a tout un ensemble de personnes qualifiées de chefs Issa, dont trois qui, semble-t-il, sont les mêmes, ont déjà signé le traité de 1885, signent en 1917 un nouveau traité qui, je cite, « ratifie tous les actes de possession et de propriété accomplis par l'autorité française et comprend tous les droits de propriété, possession, jouissance et servitude sur le territoire concerné ». Cet accord est souvent interprété par la petite littérature sur Djibouti comme la transformation du protectorat en colonie, même s'il ne concerne en fait qu'un seul des trois espaces qui ont été soumis en protectorat. Mais après 1917, le mot protectorat n'existe plus dans l'ensemble des références administratives sur Djibouti. Alors, si on essaye de comprendre quelle pouvait être la signification de ces épisodes-là, de l'appropriation foncière en côte française des Somalies, c'est un exemple de passage d'un droit d'usage des espaces, un droit de propriété du sol. Le colonisateur impose aux habitants sa conception de la propriété, d'autant plus facilement que le territoire est aride, extrêmement peu peuplé. On ne sait pas combien il pouvait y avoir. Enfin, la question de savoir combien il y avait d'habitants sur le territoire à l'arrivée des Français n'est pas réglée. Mais enfin, on est entre quelques milliers de personnes, tout au plus, sur l'ensemble du territoire. Donc, ce sont principalement, avant l'arrivée des Français, c'est pas tellement les espaces qui eux-mêmes n'ont pas d'utilité à part d'être traversés, qui ne sont pas exploités, qui font l'objet d'un contrôle, mais ce sont principalement les points d'eau. Et la ville de Djibouti est située sur un plateau où il n'y a pas d'eau. C'est pour ça que c'était vraiment complètement désertique et personne n'y habitait là-bas. Quand la ville est créée, l'eau est apportée de l'oued qui est à côté, par chameau d'abord, par âne d'abord, puis après une canalisation. Et il y aura des distributions d'eau par porteur dans la ville indigène, au moins jusqu'aux années 50. Donc, on est là face à une question de propriété, ces divers épisodes qui permettent de s'interroger sur les notions de droit foncier, de propriété et l'impact de l'imposition coloniale d'un autre droit dans la situation djiboutienne. Malheureusement, on n'a pas d'études aujourd'hui sur les modalités précises d'appropriation foncière dans les pratiques autochtones avant la colonisation, mais on a quand même quelques éléments. Il y a des analyses, en particulier écrites à la fin du XXe siècle par des auteurs djiboutiens, qui contestent la légalité interne des cessions de territoire du XIXe siècle. Reprenant les affirmations de l'ancien Premier ministre de Djibouti, Ahmed Dini, Adawa Hassan, qui a soutenu un doctorat d'histoire ici, à Aix-en-Provence, écrit par exemple que les signataires de 1862, du premier traité donc qui a créé la colonie, n'ont rien cédé et n'ont pas le droit de céder des territoires qui appartiennent à la tribu Takil. Il ajoute qu'un territoire est avant tout un wano, c'est-à-dire une propriété collective et inaliénable. Donc lui, il conteste la possibilité même de dire qu'il y a une cession, et donc il dit que dans le droit local, pour les personnes qui ont cédé, si par hasard ils ont estimé avoir cédé, de toute façon, ils ne pouvaient pas le faire. Alors la notion d'inaliabilité demanderait à être démontrée et de voir quelle signification elle peut bien avoir dans l'esprit des habitants de Djibouti, enfin de la côte nord de Djibouti au XIXe siècle, hein, parce que bon, tout ça demanderait vraiment à être travaillé. Ali Moussaïe, un autre auteur qui a fait une thèse sur le droit Issa dans les années 90, n'évoque pas du tout la question foncière dans toutes les questions juridiques qu'il évoque, si ce n'est pour parler de la compétition continuelle entre les groupes de pasteurs pour l'eau et les pâturages, qui mène souvent à des conflits violents. La géographe Amina Saïd Chiré, aussi une djiboutienne, écrit, donc, qui a travaillé sur la construction urbaine à Djibouti au XXe siècle, « Chez les Somalis Issa, la terre est appropriée de façon lignagère. Chaque lignage a ses propres terrains de parcours. Cependant, tous les Issa ont un droit d'usage sur l'ensemble du territoire de la Confédération. » Ce qui ressort de ce que je comprends, moi, mais ça demanderait à être travaillé, c'est que c'est quand même plutôt l'usage de la propriété qui a de la valeur, que ce soit pour le transit, pour les caravanes, l'utilisation des puits et de l'eau ou des pâturages. Ce qui apparaît clairement dans les pratiques, me semble-t-il, c'est que ce n'est pas un droit partagé, un bien accessible à chacun selon ses besoins, mais que le contrôle de la pratique est une ressource en soi que l'on obtient par la force et que l'on monnaie. Les pasteurs payent des droits d'utilisation des pâturages, payent des droits d'utilisation des puits à des groupes qui arrive à un moment à les contrôler militairement, je dirais, enfin en tout cas par la force, et le groupe qui contrôle des puits ou des pâturages, ça évolue et ça fait l'objet de conflits récurrents, extrêmement violents. On retrouve cette conception-là dans le discours d'Amina, qui dit que les personnes Issa ont une légitimité immanente à la terre, qui viendrait de leur droit de contrôle, quoi. Les récits du voyageur du XIXe siècle montrent bien que les territoires sont l'objet d'une appropriation par les groupes sociaux dominants, qu'on qualifie de sultanat, chefferie, etc., qui font payer leur utilisation. C'est le paiement des droits qui crée la subordination, plus qu'une éventuelle appartenance. Et ces pratiques de paiement de droits se continuent jusqu'à la fin de la période coloniale, et même encore aujourd'hui, sous des pratiques modifiées et qui n'ont pas été étudiées du tout non plus. Hein, donc tout ça, ces droits changeaient régulièrement. Après la Seconde Guerre mondiale, ces pratiques et ces questions-là restent vivantes. Et il y a toujours des enjeux importants autour de cette question-là. À partir de 1966, un barrage militarisé est installé autour de la presqu'île de la presqu'île de Djibouti, officiellement pour empêcher l'émigration. Il entraîne la création d'un espace du dehors, le bidonville de Balbala, où s'entassent les candidats au passage, qui n'ont pas réussi à rentrer, qui n'arrivent pas à rentrer ou qui attendent de pouvoir rentrer, et qui est en fait le territoire d'expansion urbaine de la ville de Djibouti. Les légitimités s'y confrontent alors. Une partie des habitants arguent de leurs droits historiques sur le sol au nom d'une appartenance qualifiée d'Issa pour légitimer l'occupation d'espaces urbains que leur refuse l'État. Cette revendication est liée à la construction politique de la République de Djibouti, où l'accès à la citoyenneté et donc au partage des ressources est entremêlé à des constructions identitaires forgées à partir des 1930, à partir des années 30, et symbolisée par la définition de territoire français des Afars et des Issa entre 1967 et 1977. À l'indépendance, on assiste en particulier autour de la ville de Djibouti, qui concentre entre 65 et 80% de la population, à un renversement de l'accès légitime aux fonciers. L'explosion démographique de la ville de Djibouti, qui est aujourd'hui plus de 600 000 habitants, entraîne une urbanisation non contrôlée de la rive ouest de l'Oued en Bouli, depuis Balbala, et aujourd'hui ça va jusqu'à 15-18 km vers l'ouest. La faiblesse, voire l'absence d'un réseau d'assainissement menacerait même les nappes phréatiques de la ville. La question de l'approvisionnement en eau est importante, redevient très importante. Des lotissements ont été installés par l'administration. Des concessions foncières ont été accordées par le gouvernement djiboutien sur des critères qui sont qualifiés de clientélistes par les opposants. Des concessions ont également été accordées par le gouvernement sur le littoral du Golfe pour la création d'un énorme port pétrolier et de conteneurs juste à une vingtaine de kilomètres de Djibouti, puis de deux grands ports miniers à Tadjoura et dans le Goubet. Ah non, ça c'est... Voilà. À Tadjoura et au fond du Goubet. Enfin bon, un ici et un ici. Ces enjeux... En 2002, les régions méridionales du pays, donc l'organisation administrative du pays est redéfinie dans les régions méridionales avec la création de la région d'Arta. Ce changement est dénoncé par Ahmed Dini, qui a été premier ministre à l'indépendance puis qui est devenu un opposant ensuite, comme une opération, je cite, une opération politique, une opération économique et une opération d'expansion territoriale tribale au bénéfice des Issa. Cette tentative de renouvelle répartition des ressources a entraîné d'importantes manifestations à Tadjoura, à l'automne 2016, après qu'un ministre a déclaré que le lac Assal relevait de la région d'Arta. Des concessions ont été attribuées donc par l'État sur l'exploitation du sel, du lac, et une partie des taxes collectées par cette exploitation reviennent à la région qui en a la souveraineté. L'enjeu est bien la question de l'accès et du partage de la ressource. On n'est plus du tout ici en situation coloniale, mais le temps colonial, enfin, il me semble quand même qu'on voit bien comment le temps colonial s'insère dans une histoire plus longue, dans une histoire de l'appropriation du territoire. Et ça nous permet, une nouvelle fois, c'est quand même quelque chose que plus dans les études africaines, on avance bien, de ne pas réifier la colonisation comme étant un moment complètement unique, mais bien de l'insérer dans des histoires plus longues des sociétés locales. Voilà, je vais conclure rapidement, peut-être sur quelques trucs. Pour dire que cette situation djiboutienne, vue comme ça dans la longue durée, nous parle bien d'une appropriation foncière, mais qu'est-ce qu'elle nous dit en fait sur l'appropriation coloniale, considérée comme une spoliation des droits légitimes et des ressources qu'elle permettent. Il me semble que dans le cas djiboutien, les appropriations foncières coloniales participent plus de la construction d'un nouveau territoire, le territoire djiboutien, impensé auparavant, que d'une réelle spoliation d'espace et de droits, de par le très faible peuplement des régions occupées et la très faible partie du territoire concerné. Elles ont contribué, me semble-t-il, en fait, à ce que je proposerais peut-être d'appeler l'appropriation morale de ces territoires par leurs habitants, venus d'ailleurs de tous les territoires environnants dans leur immense majorité. Après l'indépendance, la dénonciation des spoliations de ressources ainsi, de la spoliation des ressources ainsi réalisées est mobilisée dans le cadre des luttes politiques internes à la société djiboutienne, en particulier durant la guerre civile du début des années 1990. Ce qui fait débat aujourd'hui dans la société djiboutienne, c'est plus l'usage, le partage et la répartition du produit de ces appropriations foncières et les droits qu'elles ont ouverts. C'est la légitimité des acteurs à participer au partage de la rente, en particulier foncière, mais aussi stratégique, avec l'accès au commerce de l'Éthiopie et du port de Djibouti, qui alimente aujourd'hui les tensions sociales et politiques, plutôt que la légitimité de l'appropriation foncière par elle-même, qui n'est, me semble-t-il, aujourd'hui comme hier, pas contestée. Je vous remercie.